Jean qui grogne et Jean qui rit par la comtesse de Ségur, sixième cassette, première face, page 161. Chapitre 21, séparation des deux frères. Simon et Jean montèrent pour la dernière fois dans leur chambre. Ils firent chacun leur modeste et très petit paquet. Simon ouvrit le portefeuille que lui avait donné M. Abel. Il y trouva énormément d'argent, plus l'anneau de mariage et la médaille que Simon devait, selon l'usage, donner à sa femme. « Est-il possible ? Quelle bonté ! Quelle générosité ! » s'écria Simon. « Je vais t'accompagner jusque chez toi, Simon, lui dit Jean. « Certainement, mon ami, répondit Simon. Tu m'aideras à m'arranger. Ce ne sera pas long, je pense. » « Non, dit Jean, mais nous serons restés ensemble le plus longtemps possible. » Les deux frères firent leurs adieux à M. Métis, qui leur donna à chacun une gratification, et ensuite ils prirent congé de leurs camarades, qui les voyaient partir avec regret. En arrivant chez M. Amédée, ils furent reçus avec grande joie.
« Seulement, mon ami, lui dit Mme Amédée, vous auriez dû nous prévenir pour les meubles. Je ne savais pas que vous en eussiez acheté, et j'avais mis dans notre chambre ceux que j'avais. Pas beau, mais pouvant servir. Il a fallu enlever mes vieilleries pour y placer votre joli mobilier. Les tapissiers y ont travaillé depuis le jour naissant. Rideaux, alcôves, ils ont tout mis en quelques heures. C'est que vos meubles sont charmants. Ils sont très bien. La future chambre d'Aimée est même trop élégante. Je ne lui fais pas d'autres reproches. »
Simon était stupéfait. La surprise l'avait empêché d'interrompre sa future belle-mère. Il dit enfin, « Mes meubles, la chambre d'Aimée, mais je n'ai rien acheté. Je ne sais pas ce que cela veut dire. » Comment, dit Jean, tu ne devines pas, Simon? Mon cœur me dit à moi que c'est Monsieur Abel, toujours Monsieur Abel. Allons vite voir ce qu'il y a dans tes deux chambres. Je suis content pour toi et pour Aimée. Ils montèrent tous au premier au-dessus du magasin. Simon et Jean trouvèrent en effet un mobilier complet dans chaque chambre. Les meubles étaient en acajou et perse de laine, simples et jolis. Dans la chambre de Simon, il y avait une petite bibliothèque avec une vingtaine de volumes reliés, bien choisis et tous intéressants et utiles.
« On a mis l'armoire et le linge, dit Madame Amédée, dans la chambre d'Aimée, puisque c'est elle qui doit le soigner et s'en servir. Et quant à la malle de vos effets, Simon, je ne l'ai pas ouverte. J'ai pensé que vous aimeriez ranger vos affaires vous-même. »«
Ma malle ? Mes effets ? Dit Simon, mais je n'ai pas de mal et mes effets, mes habits, sont dans le paquet que j'ai apporté. Encore, monsieur Abel, notre chère Providence, s'écria Jean. Jean courut à la malle, l'ouvrit et la trouva pleine de linge, d'habits, de chaussures, de tout ce qui pouvait être nécessaire à Simon dans sa condition de petit commerçant aisé, mais travaillant encore. Pour le coup, Simon sentit ses yeux se mouiller de larmes. « C'est trop, dit-il, c'est trop bon. Et voyez, ajouta-t-il en leur montrant le portefeuille et ce qu'il contenait, voyez ce qu'il m'a donné. Avant lui, je n'avais rien. J'envoyais à ma mère tout ce que je gagnais. Et cet argent, prenez-le comme cadeau de noces pour aimer ma mère. Achetez ce que vous croirez lui être utile et agréable. » Monsieur et Madame Amédée étaient enchantés. Il leur importait peu de qui venaient ces richesses, pourvu que leur fille en profitât. Ils se hâtèrent de descendre pour faire part à Aimée des générosités de Monsieur Abel. Les yeux de Madame Aimée brillaient de bonheur.
« Avec un pareil protecteur, Aimée, tu n'auras pas besoin de t'inquiéter de l'avenir de tes enfants, dit Madame Amédée. J'espère bien, maman, répondit Aimée, que Simon n'aura jamais besoin d'avoir recours à la générosité de son bienfaiteur, après tout ce qu'il lui a donné. « Je ne dis pas, répondit sa mère, que tu demandes jamais rien à M. Abel. Je veux dire seulement que sa générosité prévoit tout et pense à tout. »
Aimée n'était pas contente de l'explication de sa mère, mais elle ne dit rien. C'était sa mère. Simon et Jean, restés seuls, s'embrassèrent tendrement et longuement. Tous deux avaient des larmes dans les yeux. Leur silence exprimait, mieux que des paroles, leur joie et leur reconnaissance. « Rangeons tes affaires, » dit Jean après quelques instants de silence. « Et puis, je te quitterai pour aller aussi dans ma nouvelle demeure. Hélas, mon bon et cher frère, c'est là le chagrin. Chacun chez soi, nous ne serons plus ensemble. Toujours, toujours séparés à l'avenir. Mais pas séparés de cœur, mon cher, cher Jean, dit Simon. Ces deux années que nous avons passées ensemble, si étroitement unies, sont de beaux moments de notre vie. Ils nous laisseront un charmant et heureux souvenir. Je n'ai jamais été si heureux que dans notre pauvre chambrette du cinquième, où nous manquions de tout et où nous avions tout ce qui fait le bonheur, une conscience tranquille et notre tendresse fraternelle. Nous les avons toujours, ces deux éléments de bonheur. Nous nous verrons moins, c'est vrai, mais nous nous aimerons autant et nous penserons l'un à l'autre. Et à présent, mettons-nous à l'ouvrage. Jean embrassa encore une fois Simon et commença avec lui à tout placer dans la commode et dans l'armoire et à accrocher les habits au porte-manteau. Au fond de la caisse, Simon trouva d'abord un crucifix et une petite statue de la Sainte Vierge, puis un petit paquet. Il l'ouvrit et en tira deux jolis livres, les Évangiles et l'Imitation de Jésus-Christ. Ensuite, une petite boîte contenant une belle montre d'homme avec sa chaîne d'or. « Encore, » dit Jean, « tu vois s'il nous aime. Est-il possible qu'il y ait un homme meilleur que mon cher monsieur Abel ? Je ne le crois pas. Non, c'est impossible. » La malle était vide. Simon se trouvait monté de tout pour des années. Jusqu'aux chaussures et aux affaires de toilette, rien n'avait été oublié. Il commençait à se faire tard. Il était temps que Jean se rendît chez ses nouveaux maîtres. Les deux frères s'embrassèrent à plusieurs reprises. Jean descendit l'escalier, la vue un peu troublée par des larmes qui remplissaient ses yeux malgré ses efforts. Et Simon, partagé entre le regret de quitter son frère et le bonheur de sa situation actuelle et à venir. Les frères se séparèrent au bas de l'escalier. Jean sortit. Simon entra dans le magasin où il trouva Aimée, qu'il n'avait pas encore vue, à laquelle il avait tant de choses à dire et dont la sympathie et l'affection dissipèrent promptement le nuage de tristesse que lui avait laissé le départ de Jean. Celui-ci marchait vite et cherchait à se distraire. En passant devant l'épicerie de Pontoise, il se heurta contre Jeannot qui en sortait. « Où vas-tu si précipitamment, Jeannot ?» demanda Jean.
« Je vais entrer chez monsieur le comte de Puffière, P-U-F-I-E, accent grave, R-E-S. Une fameuse place, des gens très riches. J'ai plein d'argent, la grosse paye. Habillé comme un prince, nourri comme un roi. Presque rien à faire, et puis des profits.
Mais quel profit peux-tu avoir ?
Monsieur Boissec, B-O-I-2-S-C, l'intendant me les a expliqués. Je les aurai si je me conduis bien. Je te dirai ça quand j'y serai, que je saurai bien au juste ce que c'est. Et toi, où vas-tu si bien habillé ?
J'entre aussi, moi, dans une maison où m'a placé notre cher protecteur, monsieur Abel.
Et quel genre de maison est-ce ?
Oh, des personnes excellentes. Il y a là un pauvre petit garçon de 10 ans, bien malade. C'est un vrai ange. Et les pauvres parents, si résignés, si tristes, mais si pieux. Un chagrin si doux, si bon.
Ça sera amusant, un joli cadeau que t'as fait au cher bienfaiteur.
Oui, c'est un beau cadeau. Et il faut qu'il m'aime bien pour m'avoir trouvé digne d'entrer dans cette maison. Pauvre Jeannot, tu ne comprends plus cela, toi.
Laisse-moi donc avec ta pitié. Tes pauvres Jeannot m'ennuient à la fin. Pendant que tu geindras, que tu prieras comme un imbécile, moi je m'amuserai comme un roi. Je mangerai, je boirai, je dormirai.
Et après ?
Après ? Eh bien, tiens, après, ben, je recommencerai.
Et après ?
Après, hein, je continuerai.
Et après ?
Oh, laisse-moi tranquille avec ton après.
C'est qu'après, tu mourras, Jeannot. Et que lorsque tu seras mort, il y aura encore un après et un toujours. Jeannot lança à Jean un regard de colère et de mépris et passa de l'autre côté de la rue pour ne plus marcher avec lui. Au coin de la rue Castiglione, Jeannot tourna à droite, Jean continua tout droit et dit un dernier adieu au pauvre Jeannot qui se croyait très heureux et qui ne daigna ni répondre, ni tourner la tête. Quel dommage qu'il ait quitté la campagne, se dit Jean. Paris l'a perdu. Jean arriva chez M. et Mme de Grignan. Ce fut Barcus qui le reçut et lui dit, « Ah, te voilà donc, mon ami. Je suis bien content de t'avoir chez nous et nous allons nous mettre à l'ouvrage tout de suite. Monsieur Abel dîne ici. Tu vas essuyer les assiettes et les verres pendant que je préparerai le dessert et le vin. » « Comment va ce pauvre petit monsieur Roger ?» demanda Jean. « A-t-il passé une bonne nuit ?»«
Non, mauvaise, comme toutes celles qu'il passe depuis 15 mois, » répondit Barcus. « Il souffre constamment. Il n'a pas de sommeil, le pauvre petit. Son père et sa mère sont sur les dents. »
Un coup de sonnette se fit entendre.
« Drine !»« Vas-y, Jean, vas-y !» dit Barcus. « Ma corbeille de fruits va s'écrouler si je l'abandonne. »
Jean courut au salon et y trouva Madame de Grignan.
« C'est vous, Jean ? Je sonnais tout juste pour savoir si vous étiez arrivé. Mon pauvre Roger vous demande. Il désire beaucoup vous voir. Lui qui ne demande jamais rien et qui semble ne rien désirer, il a demandé qu'on vous envoyât chez lui aussitôt que vous seriez arrivé. Allez-y, mon ami.
Oui, madame. Madame veut-elle me permettre de prévenir Monsieur Barcus ?
Oui, Jean, allez. C'est très bien à vous d'être déférent pour Monsieur Barcus.
Jean revint un instant après et il entra dans la chambre de Roger. Le bruit léger que fit la porte attira l'attention du petit malade. Il ouvrit les yeux. Un demi-sourire et une légère rougeur vinrent animer son visage. Il fit signe à Jean de s'approcher et lui tendit la main. Jean la prit doucement, y appuya ses lèvres et regarda le visage si souffrant et contracté du pauvre enfant. Roger examinait Jean de son côté. Il sourit légèrement.
« Tu as pitié de moi, Jean. Tu ne veux pas croire que je ne suis pas malheureux. » « Je souffre, il est vrai. Je souffre beaucoup, mais le bon Jésus me donne de la force pour souffrir. Et toi qui es pieux, tu dois savoir que plus on souffre sur cette terre, plus on est heureux dans l'autre monde. Je mourrai bientôt et je serai bien, bien heureux avec le bon Dieu. Je prierai pour toi, Jean, quand je serai là-haut. »
Roger se tut et ferma les yeux. Il ne pouvait plus parler tant sa faiblesse était grande et sa souffrance aiguë. Jean voulut se relever, mais Roger sourit légèrement, sans ouvrir les yeux, et retint la main qu'il tenait.
« Prions !»«
Oh oui, dit Jean, prions pour que le bon Dieu vous rende la santé. »«
Non, Prions pour que sa volonté soit faite et qu'il fasse de moi tout ce qu'il voudra. C'est mieux ça. Je suis content aujourd'hui. Papa et maman pourront se reposer pendant que tu es auprès de moi, Jean. Et je suis tranquille quand ils se reposent. Mon ami Abel t'aime beaucoup, Jean, parce que tu aimes bien le bon Dieu. Et moi aussi, je t'aime pour cela. Et je suis content quand tu es là, près de mon lit. Et puis j'aime avoir tes yeux. Ils sont doux, ils sont bons, ils ont toujours l'air d'aimer.
Roger s'arrêta. Son visage se contracta.
Jean, Jean, prie pour moi. Que le bon Dieu m'aide. Je souffre, je souffre. Oh mon Dieu, pardon, ma bonne Sainte Vierge, aidez-moi, ayez pitié de moi. Oh!
Jean retira sa main d'entre celles de Roger, qui n'eut pas la force de la retenir, et il courut chercher Madame de Grignan qui causait avec le médecin de la maladie et des souffrances de son enfant. Ils entrèrent et renvoyèrent Jean à Barcus. Monsieur Abel arriva peu de temps après. Jean profita de ce qu'il se trouvait seul avec Monsieur Abel pour lui dire rapidement ses nouveaux motifs de reconnaissance. Il se mit à genoux devant lui pour donner un coup de brosse à ses bottes, et dans cette position humble et reconnaissante, il lui dit des paroles de tendresse et de dévouement.
« Tais-toi, tais-toi, mon enfant !» répondit M. Abel. « Tu sais que tu es convenu avec moi de ne me remercier que par les yeux. Si quelqu'un t'entendait, on pourrait croire que je suis réellement ton sauveur, ton bienfaiteur. Je veux être ton ami, ton protecteur, rien de plus. Voici Barcus. Chut. Eh bien, Barcus, où avez-vous logé mon petit Jean ?
Monsieur, répondit Barcus, j'ai fait porter sa malle dans la chambre près de la mienne. Jean regarda Monsieur Abel d'un air surpris en répétant « Ma malle, ma malle ?»«
Mais oui, ta malle, Nigaud, dit Monsieur Abel. Où voulais-tu qu'on l'a mis si ce n'est dans ta chambre ? C'est comme pour Simon. » Quand il a déménagé, sa malle a été portée dans sa nouvelle chambre. Il en est de même pour toi. »
Tout cela fut dit d'un air significatif, avec un sourire bienveillant et un peu malin, et quelques signes du doigt qui voulaient dire « Ne me trahis pas, tais-toi. »
« Je vais voir si madame est dans le salon, » dit Barcus.
« Monsieur, » dit Jean dès qu'ils furent seuls.
« Chut, Barcus va revenir. Tu as manqué me trahir. Crois-tu donc que ce que j'ai fait pour Simon, je ne l'aurais pas fait pour toi ? Toi, mon ami, mon confident, » ajouta-t-il en riant.
À table, Jean vit pour la première fois Mademoiselle Suzanne de Grignan, jeune personne, gracieuse et aimable, charmante. Toute la famille était si unie, si bonne, que Jean se sentit tout de suite à son aise, comme s'il en faisait partie. Pour la première fois, il eut l'occasion d'apprécier l'esprit gai, vif et charmant de M. Abel. Il l'admira d'autant plus. Il ne le quittait pas des yeux, et plus d'une fois, cet enthousiasme muet excita le rire bienveillant des cinq convives. Chapitre 22. Jean se forme. Les camarades de Jean étaient tous de braves et honnêtes serviteurs. Barcus, leur chef, était aimé et respecté de ses camarades et de tous ceux qui avaient des relations intimes avec ses maîtres. Il se chargea d'achever l'éducation négligée de Jean. Il lui donna les habitudes régulières qu'il n'avait pas eues jusque-là. Le pauvre petit Roger aidait, sans le savoir, au perfectionnement de Jean. Il le demandait souvent et lui témoignait de l'amitié. La vue de ses souffrances, supportées avec tant de douceur, de patience, de courage, faisait une profonde impression sur le cœur aimant et sensible de Jean. Les visites quotidiennes de M. Abel, ses bons conseils, sa constante bonté développèrent aussi l'esprit et les idées de Jean. Il comprit mieux sa position vis-à-vis de ses maîtres. Il leur témoigna plus de respect, de déférence. Peu à peu, les restes de dehors, villageois et naïfs, disparurent. En prenant de l'expérience et de l'âge, Jean fut plus maître de ses sentiments. Il aima autant, mais avec moins d'expansion. Il apprit à contenir ce que l'inégalité des conditions pouvait rendre ridicule ou inconvenant vis-à-vis de ses maîtres et des étrangers. Il ne baisa plus les mains de M. Abel. Il ne se mit plus à genoux. Il le regarda moins affectueusement et moins souvent, mais dans son cœur, c'était la même ardeur, le même dévouement, la même tendresse. Jean se sentait heureux, entouré de bons camarades, au service de maîtres excellents. Il trouvait autour de lui amitié, bonté, soin, enfin la vraie fraternité qui est la charité du chrétien. Bien loin de lui refuser des permissions pour aller voir Simon, on faisait naître les occasions de réunion pour les deux frères. Barcus préférait faire le travail de deux pour donner à Jean une soirée ou un après-midi de congé. Il n'était jamais refusé quand il désirait aller à l'église ou sortir pour ses affaires personnelles ou voir quelque chose d'intéressant ou faire une visite de pauvre. S'il était souffrant, ses camarades le soignaient comme un frère. Les maîtres veillaient à ce qu'il ne manquât de rien. Monsieur Abel venait alors savoir de ses nouvelles et le distrayait par son esprit gai et aimable. La seule peine de Jean était l'état toujours alarmant et douloureux du bon petit Roger, que Jean aimait d'une sincère affection. « Vous prierez pour moi, monsieur Roger, quand vous serez près du bon Dieu, » lui disait-il souvent. « Pour toi, comme je prierai pour un frère, » répondait Roger de sa voix défaillante. Les nouvelles d'Hélène étaient excellentes. Elle se plaisait beaucoup dans cette ferme de Sainte-Anne que louait Kersac. Elle était généralement aimée et estimée. Kersac était plus un frère qu'un maître pour elle. Jamais un reproche, toujours des remerciements et des éloges. La petite Marie devenait de plus en plus gentille. Elle passait la journée chez les bonnes sœurs de Sainte-Anne. Elle travaillait bien, elle commençait déjà à se rendre un peu utile à la ferme. Quand Kersac lui faisait faire un raccommodage ou un travail quelconque, pour lui-même, Marie en était fière et heureuse. Kersac l'aimait beaucoup et se réjouissait de la pensée de l'adopter. Un jour, il reçut une lettre de Simon et de Jean. Simon lui demandait de venir assister à son mariage, qui avait été retardé jusqu'après Pâques, à cause d'une maladie de Madame Amédée, commencée peu de jours avant le carême. Simon demandait aussi à Kersac de vouloir bien lui servir avec Monsieur Abel, ce peintre fameux par son talent, autant que par sa vie exemplaire et son esprit charmant. Jean suppliait son ami Kersac de venir les voir dans une occasion aussi solennelle. Ils déploraient tous les deux, Simon et Jean, que leur mère ne put pas venir, et Jean demandait à Kersac de ne pas augmenter leur chagrin en refusant d'être le témoin de l'heureux Simon. Il profitait de l'occasion pour raconter à Kersac une foule de choses et de détails intéressants. « Tenez, Hélène, » dit Kersac, « lisez cette lettre de Simon et de Jean. » Hélène la lut avec un vif intérêt.
« Eh bien, » dit-elle, « que ferez-vous ? » ?»«
J'irai, » dit Kersac. La ferme n'en souffrira pas, bien que la saison soit encore au labour et aux semailles. Je ne serai absent que 3 ou 4 jours. Je vais écrire pour savoir le jour du mariage et l'hôtel où je pourrai descendre pour être près d'eux. Nous voici au printemps, le beau temps est venu. Ce sera pour moi un voyage agréable de toute manière. Cela me fera vraiment plaisir de revoir mon petit Jean. Je tâcherai de vous le ramener si c'est possible. Hélène devint rouge de joie.
Me ramener Jean ? Ah, si vous pouviez.
Et pourquoi ne le pourrais-je pas?
C'est qu'il est en service, monsieur. Et vous savez combien c'est gênant quand un domestique s'absente.
Oh, ce ne doit pas être à Paris comme chez nous. Ils ont un tas de domestiques qui se tournent les pouces. On ne s'aperçoit seulement pas quand l'un d'eux manque.
Je crois, monsieur, que cela dépend des maisons. Chez madame de Grignan ou Jean, chacun a son travail. C'est une maison comme il faut, une vraie maison de Dieu, comme l'écrit toujours Jean.
C'est possible, mais j'essayerai toujours. Voilà près de 3 ans que vous n'avez vu votre fils, ma pauvre Hélène. Il est bien juste qu'on vous le donne pour quelques jours. »
Hélène le remercia, mais sans trop croire au bonheur que ce brave Kersak lui faisait espérer. Il reçut 2 jours après une réponse à sa lettre. Le mariage était pour le 1er mai et on était au dernier jour d'avril. Pas de temps à perdre. Hélène se hâta de lui préparer ses plus beaux habits, son linge le plus fin, ses bottes les plus brillantes. Elle lui mit des pièces d'or dans sa bourse. Elle crut être prodigue en lui mettant 100 francs. 100 francs d'alors, ça fait à peu près comme 2000 francs d'aujourd'hui. Elle fit son paquet, qu'elle enveloppa dans un beau torchon neuf, bien épinglé, et lorsque Kersak fut près du départ, elle lui remit son paquet et la bourse.
« Merci, ma bonne Hélène. Avez-vous été généreuse? Combien m'avez-vous donné pour m'amuser ?»«
Plus que vous n'en dépenserez, monsieur. 100 francs. »«
Ah, 100 francs, pauvre femme. 100 francs. Mais il n'y a pas de quoi aller et venir si je ramène mon brave petit Jean. »«
Eh bien, monsieur, votre dépense ne sera pas grand-chose. » Vous allez être nourri là-bas. Quand on va à la noce, on mange et on boit pour 8 jours.
Et me loger donc, et vivre en attendant la noce. Je ne vais pas arriver là pour tomber en défaillance comme un mendiant qui n'a rien à manger. Et mon cadeau de noce donc. Vous croyez que je laisserai marier un garçon qui est presque à vous sans lui faire mon petit cadeau? Non, Hélène, Kersak est plus généreux que ça. Donnez-moi la clé et venez voir ce que j'emporte.
Hélène le suivit en lui recommandant l'économie.
« Prenez garde de vous laisser trop aller à votre générosité, monsieur. Ces 3 jours vont vous coûter plus cher que 6 mois ici chez vous. »«
Oh, c'est bon, c'est bon. Je sais ce que je fais. Je suis économe, vous le savez bien. Mais, à l'occasion, je n'aime pas à être avare. »«
Économe, économe, excepté quand il s'agit de donner, monsieur. »
« Oh, mais quant à ça, Hélène, j'ai mes principes, vous savez. Il faut que celui qui a donne à celui qui n'a pas. »
Kersak se trouvait devant la caisse où étaient ses papiers et son argent. Et au grand effroi d'Hélène, il en tira encore 500 francs. Ça fait 10 000 francs d'aujourd'hui.
« Miséricorde, monsieur! Vous n'allez pas dépenser tout ce que vous emportez. »
« J'espère que non. » Mais dans une ville comme Paris, il ne faut pas risquer de se trouver à court. On ne sait pas ce qui peut arriver, un accident, une maladie.
Oh, monsieur, le bon Dieu vous protégera. Il ne vous arrivera rien du tout. Et vous nous reviendrez en bonne santé, j'espère bien.
Je l'espère bien aussi, ma bonne Hélène. Et à présent, au revoir. Et préparez un lit pour votre garçon. Et embrassez pour moi ma petite Marie qui est à l'école.
Kersak embrassa Hélène sur les 2 joues. Selon l'usage du pays, sauta dans sa carriole avec le garçon de ferme qui devait la ramener et s'éloigna gentiment.
« Oh, s'il pouvait me faire voir mon petit Jean !» s'écria-t-elle quand il fut parti.
Elle était pleine d'espoir, malgré ce qu'elle en avait dit à Kersak, et ne perdit pas une minute pour préparer un lit à Jean, dans une petite pièce qui se trouvait entre sa chambre et celle de Kersak.
Fin de la première face de la 6e cassette, page 175, Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur. Laisse la cassette se dérouler jusqu'à la fin avant de la retourner. À tout de suite.